pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur.
Belena Senyo Zongi Sama Tsusuana. consolation na ngai Jonyondo photocopie na yo.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous venons d'entendre une très belle musique qui fait du bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Ignace Mvani, qui est professionnel en évolution des carrières et acteur de l'intermédiation entre l'offre et la demande du travail. En lui, nous rencontrons l'auteur aujourd'hui et vous êtes dans l'émission Page après page. Bonjour.
Bonjour Gisèle.
Vous nous dépaysez avec cette musique.
Bah oui. Comme le livre des paysages, j'ai voulu faire un complément du livre avec cette musique qui va aussi vous envoyer les personnes qui nous écoutent vers l'Afrique.
Oui.
Qui est la source de ce livre en principe.
Oui, en effet. Justement, vous allez nous faire voyager très loin. On va aller jusqu'au Congo. Comment est-ce que vous avez pris ce virus de l'écriture?
Le virus de l'écriture m'est arrivé assez tôt, mais il a eu un grand temps d'incubation. La première fois où j'ai eu l'idée que je pouvais écrire un livre, ça remonte de mes années d'études quand j'étais encore en classe de seconde.
Ah oui.
J'ai lu un livre qui s'appelait « Les gouverneurs de la rosée ». Quand on m'a expliqué ce livre, que je l'ai vraiment intégré, je me suis dit « l'auteur est génial,
oui.
Il faudrait un jour que je fasse comme lui ».
Ah oui, mais vous avez réussi.
Et plus tard, je me suis dit « mais il faut maintenant que je me lance. » Et donc, j'ai écrit mon premier livre que j'ai mis de côté. Et un jour, sur le lieu de travail, on a parlé d'écriture avec une collègue. Et je lui avais dit que j'avais un livre que j'avais écrit depuis longtemps et qui est dans un tiroir. Je n'ose même pas le présenter à un éditeur parce que je ne suis pas sûr de pouvoir trouver quelqu'un qui acceptera de m'éditer. Elle m'a demandé de lui faire lire le livre. 3 jours plus tard, elle est revenue. C'était un livre de 400 pages et elle avait fini. Et elle m'a dit, j'ai pleuré. J'ai parcouru des passages qui m'ont fait pleurer et j'étais reconnu dans le livre. Et elle m'a dit, il faut que tu te dépêches, que tu le publies. Et quand je l'ai envoyé à la première maison d'édition, elle m'a dit juste oui.
C'est pour notre plus grand plaisir. Nous allons parler d'un de vos livres, un livre immortel à mon humble regard, parce que j'ai trouvé ce livre vraiment très, très intéressant. C'est un livre, à mon avis, qu'il faut lire et même relire. Le Caprice des miroirs, c'est paru en novembre 2017 aux éditions Spinel. Votre personnage principal, c'est une femme. Est-ce que c'est difficile de penser comme une femme quand on est un homme?
Ça devrait être difficile quand on ne sait pas, on ne connaît pas la femme dans la peau de laquelle on veut s'insérer. Moi, le personnage principal, c'est une femme et cette femme est mon épouse. C'est elle qui... Mais bien sûr, c'est pour ça que ça a été...
plus facile.
Plus facile à faire, parce
oui.
que sinon, ce n'est pas évident.
Mm-hmm.
Donc, la narratrice, c'est mon épouse. Et c'est elle, dans sa peau, que je me suis inséré pour pouvoir écrire ce livre.
D'accord. Christina et Evan, bon, Christina, vous venez de le dire, c'est votre épouse. Ouais. Evan, c'est votre double...
C'est mon double métaphysique, peut-être.
D'accord. Christina nous raconte son voyage au Congo, le pays d'Evan, qui est son mari. Quelle est la langue officielle du Congo? C'est bien le français?
La langue officielle, c'est le français, oui.
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 Et est-ce qu'il y a des dialectes ou est-ce qu'il y a des langues, d'autres langues?
Des langues, il y en a des tas.
Oui.
Nous, on appelle ça souvent des langues des tribus.
Oui.
Puis en dehors de ça, donc en dehors du français et des langues des tribus, il y a 2 langues qui sont des langues nationales, qui sont le Lingala,
mm-hmm.
qui est aussi parlé de l'autre côté du fleuve Congo, c'est-à-dire au Congo belge, l'ancien Congo belge, qu'on
oui.
appelle la République démocratique du Congo. Et cette langue est parlée au Congo aussi. Et il y a une autre langue qu'on appelle le Munukutuba, et qui est aussi parlée au Congo. On a donc 2 langues nationales, une langue officielle et plusieurs dialectes.
D'accord. Voilà. Evan vit en France. Il est partagé entre ces 2 pays ou il vit simplement en France et il sait que le Congo existe?
Evan ne peut pas vivre seulement en France et penser que le Congo existe. Il a vécu l'essentiel de son temps en France, plus qu'au Congo, mais c'est comme un fleuve qui a sa source, il tire sa source du Congo, même quand il poursuit son voyage jusqu'à la mer.
Oui. Est-ce qu'il souffre justement de l'éloignement des siens?
Souffrance, non, c'est trop dire. Moi, je suis en exil, mais c'est un exil volontaire.
Oui.
Et il me manque de temps en temps. Souvent, quand il y a des épreuves ou des événements auxquels je ne peux pas penser, j'ai des pincements de cœur. Mais la souffrance, non. Je suis bien ici, où j'ai formé ma petite famille, trois enfants et mon épouse. Je me suis fait de nombreux amis ici et des collègues de travail qui sont des personnes... Parmi ces personnes-là, il y en a qui sont très, très fabuleuses. Le Congo me manque de temps en temps, mais je me sens bien ici.
Bien. Christina nous relate le Congo. Elle parle de cette très nombreuse famille. Est-ce qu'elles sont toujours très nombreuses ou est-ce que ça se raréfie un peu plus?
Les familles sont encore très nombreuses.
Oui.
Elles sont encore très nombreuses. Elle est nombreuse, pas forcément parce qu'une femme ou un couple a eu 5, 6, 7, 8 ou 9 enfants. Mais elles sont nombreuses parce que dans ma tribu, je suis de la tribu Bateke. C'est celle dont le roi avait reçu l'envoyé de France, qui avait fait que le Congo devienne plus tard une colonie française. Il s'appelait le roi Makoko. Je suis issu de cette tribu. Et dans cette tribu, les frères ont un compte commun pour les enfants. C'est-à-dire que quand on a une sœur, les enfants des deux sœurs se disent des frères et sœurs.
Ah oui, donc ce sont des neveux, mais ils se disent frères et sœurs.
Ce sont des cousins.
Des cousins,
ils se disent frères et sœurs. Donc du coup, on peut se retrouver, quand on a eu deux tantes et trois oncles, on peut se retrouver avec 16, 25 frères et sœurs.
Et oui.
Voilà, parce que les gens, le terme cousin, en tant que tel, dans ma tribu, n'existe pas.
D'accord. Christina, elle explique aussi les retrouvailles entre Evan et les siens. C'est beaucoup d'émotions. Est-ce que c'est difficile de se retrouver dans cette famille, dans les villages, dans les clans, pour le structurer?
Difficile de se retrouver, non. Mais beaucoup d'émotions, oui. Mais Christina a été surprise parce que quand on est parti de France, en chemin, dans l'avion, elle me disait on a beaucoup de valises, parce qu'on a fait beaucoup de cadeaux. Et comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve à l'aéroport s'il n'y a personne qui vient nous accueillir? Je lui avais dit, ne t'inquiète pas, mon oncle sera là parce que c'est lui qui nous avait incité vraiment à faire ce voyage. Et je lui ai dit, au moins il sera là, il devrait aussi avoir quelques-uns de mes frères. Et puis quand on arrive à l'aéroport, ce n'est pas une, deux, trois personnes, c'est toute une foule. Elle est surprise. Au départ, elle ne savait pas que tout ce monde-là venait pour nous.
Mm-hmm.
Et quand je me suis mis à lui présenter les gens, à un moment donné, j'ai fini par battre en retraite parce que ce n'était pas possible.
Oui.
Donc, c'est les gens qui venaient vers elle, qui venaient vers moi. Puis, au gré des circonstances, soit elle serrait la main aux uns ou elle faisait la bise aux autres.
Oui.
Et c'est quand le convoi qui devait nous véhiculer jusqu'à là où nous avait réservé un logement s'est mis en route, qu'elle a compris que tout ce monde-là était là pour nous. Et quand on s'est retrouvé aussi à la maison, où certains qui n'avaient pas fait le voyage de l'aéroport nous attendaient dans l'appartement, et les enfants, je ne vous dis pas, c'est la première fois que les enfants se sont retrouvés avec autant de personnes noires autour d'eux. Mais ça a été scandaleux. Enfin, pour elles, c'était comme un scandale.
Et oui.
Ils m'ont dit, mais papa, pourquoi il y a tous ces types-là qui sont là? Je dis, mais c'était cousin, c'était oncle. Dis non! Puis à un moment donné, il y a deux des enfants, les plus grands, se sont réfugiés dans la chambre parce qu'il y avait trop de gens. Voilà, pourtant, c'était une ambiance folle. Là, c'était encore à la capitale.
Oui.
Mais quand nous, une semaine plus tard ou deux semaines plus tard, on est allé rencontrer ma mère qui habitait à 400 km de là. Mais ça a été la grande fête. C'est là où je suis né. Et ça a été vraiment la grande fête.
Et oui. Evan explique justement à son épouse les croyances, les religions. Est-ce qu'elles sont encore tenaces aujourd'hui?
Elles existent, les croyances animistes existent toujours. Tenaces, oui. Parce que les gens, quand ils sont chrétiens, ou ils sont dans un espèce de syncrétisme religieux. Oui. En fait, il y a un mélange des deux.
D'accord.
Il y a souvent un mélange où... Et souvent, quand ils vont vers la prière, que la prière ne marche pas, ils font un retour aux sources et ils vont aller implorer les saints. Mais c'est ce que fait ma mère souvent.
Oui.
Et elle est chrétienne, elle est protestante. Mais moi, je suis irréductible athée, mais ma mère, elle est protestante. Souvent, quand elle a un problème, elle prie. fille, parfois c'est elle qui est malade ou oui. elle prie. Mais quand ça, la prière ne
elle donne revient
pas,
à
elle
d'autres...
revient aux sources et vient évoquer les mains des ancêtres.
Oui.
Ou aller voir le marabout pour essayer de trouver une solution à sa maladie.
D'accord.
Les gens, en général, naviguent entre les deux. Mais, oui. mais la religion a une grande importance aux yeux des habitants. Mais les religions traditionnelles aussi, et les gens souvent sont entre les deux.
Mmh. Très bien. À la page 170, Evan dit « Un blanc est perçu individuel et très égoïste. » Est-ce que c'est encore aujourd'hui ?
Mais je pense que oui. Hein. Je ne peux pas l'affirmer pour toute l'Afrique.
Oui.
Mais dans les conditions dans lesquelles j'avais vécu, et quand je retourne, c'est toujours perçu comme ça. Et je me rappelle quand je venais en France, pour la première fois, les gens me disaient, de la famille me disaient « Tu vas là-bas, tu vas au pays des Blancs, mais tu ramènes des mallettes pleines de diplômes. Mais la femme blanche, il ne faut pas la ramener au pays parce que si tu l'amènes ici, elle va vouloir que vous vivez qu'entre vous. Il n'y aura pas les parents qui peuvent venir comme ça sans avoir pris rendez-vous. C'est assez compliqué. Mais c'est des préjugés qui peuvent, dans chaque communauté ou dans chaque pays, les gens existent et parce qu'ils existent, ils ont des préjugés. Et moi, ce préjugé-là existait. On me disait, mais quand tu vas, tu reviens avec les diplômes, mais pas avec la femme blanche, parce que ça va être compliqué. Mais la fois où, ça a été plus facile pour moi, parce que mon oncle qui m'a élevé habite en France, donc elle a connu ma femme. Mes cousins et mes cousines sont venus, ils l'ont vu. Ils ont vu qu'en fait, en partant d'ici, ils sont dû qu'en fait, ils avaient des préjugés. Ce n'est pas ce qu'ils pensaient, eux.
D'accord.
Oui, et puis du coup, quand elle est arrivée au pays, quand ils sont repartis, ils ont dit, elle est géniale, sa femme. Je vais vous faire une confidence. Pour certains, quand ils ont vu ma femme, ils ont vu comment elle se comportait. Ils m'ont dit, parce que c'est eux, quoi, la réincarnation.
Oui.
Ils m'ont dit, dans sa première vie, c'était sûrement une femme d'ici. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi sympathique et accueillante. Sinon, elle ne le serait pas. J'ai eu du mal à leur expliquer que c'est les Blancs, ce n'est pas toujours ce que vous pensez.
Mais, oui.
Mais comme ils n'ont pas eu l'occasion de les fréquenter sérieusement, ils restent sur leur faim pour pouvoir vérifier ce que je leur dis.
Oui. Vous expliquez aussi qu'il y a eu des moments de violence au Congo, tout ça. Oui. Est-ce que c'est encore aujourd'hui aussi des moments de violence comme ici en France ? Ou pas?
Ça n'a rien à voir avec la violence de la France. Parce que quand je vous dis qu'il y a eu le moment de violence au Congo, quand je parle de violence au Congo, je parle de guerre civile.
Ah oui.
Qui vide presque la capitale de tous ses habitants.
Mm-hmm.
Et c'est la dernière a eu lieu en 97. Oui, la dernière guerre civile a eu lieu en 1997. Je suis reparti après cette guerre, je crois, à peu près 5 ans plus tard. Il y avait encore... le pays n'était pas sûr du tout. Depuis, il a été sécurisé. Maintenant, les choses se passent vraiment très bien.
D'accord. Ouais. Est-ce que ce pays a souffert énormément de la colonisation et est-ce qu'il en a gardé cette mémoire? À un moment, vous en parlez de cette mémoire de colonisation.
Quand on parle, on fait d'une langue d'autrui une langue officielle.
Oui.
On ne peut pas dire qu'on n'a pas gardé la mémoire de cette colonisation-là.
Tout à fait.
Le Congo a été un pays colonisé par la France. Le français est devenu notre langue nationale. À partir de là, on peut dire que le Congo vit avec une partie de la France ancrée en lui. Et même le monument le plus luxueux du Congo, de la capitale du Congo, c'est le monument qui s'appelle le mausolée savoirien de Brazza, qui a été l'envoyé de la France, qui s'était rendu au Congo pour faire du Congo une terre française pour négocier. Enfin, ils disent qu'ils avaient signé un pacte. On ne sait pas ce qui s'était vraiment passé, mais c'est cette personne-là, cet explorateur-là, qui a le mausolée le plus luxueux et qui n'a même pas été conçu par la France. Dites-vous bien, il a été conçu par le gouvernement congolais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pour dire que l'empreinte de la France reste encore présente au Congo.
Vous parlez aussi du climat du Congo. Est-ce qu'il y a le manque d'eau réel?
Il n'y a pas un manque d'eau réel. Le Congo, c'est un pays aussi irrigué que la France. Il y a énormément de cours d'eau. Il existe une région, la région dont je suis originaire, qui n'a pas beaucoup de cours d'eau. Il y en a quelques-uns, mais qui n'a pas beaucoup de cours d'eau. Mais pourtant, l'essentiel de tous les cours d'eau du Congo prennent leur source dans cette région. Mais c'est comme nous, on pouvait dire qu'un jardin qui est au pied d'un château n'est pas forcément le mieux arrosé.
C'est vrai. Voilà. C'est vrai. On va arriver à un sujet qui a répondu en fait à des questions que je me pose depuis que j'ai la connaissance de l'homme et de la femme. Ouais. Je veux parler de la polygamie. Et au passage d'ailleurs, je vous remercie d'avoir osé en parler parce que... Oui, ça a répondu à beaucoup de mes questions. Est-ce qu'elle est toujours pratiquée ou est-ce que c'est de moins en moins chez les jeunes?
De moins en moins, oui, mais toujours pratiquée, oui.
Ah oui?
Oui, c'est, elle est toujours pratiquée. Mais de moins en moins, je peux dire de moins en moins parce que mon père a été polygame.
Oui.
Donc j'avais une mère et une marâtre.
Oui.
Qui, quand ma mère n'était pas là présente pour de tas de raisons, peut-être parce qu'elle s'était déplacée, voir sa famille ou parce qu'elle était malade, s'occuper aussi bien de nous que de ses propres enfants. Mais depuis, mon père n'y est plus, ma marâtre n'y est plus, hélas. Il reste ma mère. Et autour de moi, quand j'ai grandi, il y avait aussi mon grand-oncle qui était polygame. Il y avait les cousins de mon père, il était aussi. Pour nous, ça paraissait comme quelque chose de normal.
Oui, puisque c'est traditionnel.
C'était traditionnel, c'était notre éducation. Mais depuis que ces personnes-là sont parties, mes frères, qui eux habitent au pays, qui ont droit à la polygamie, parce que les tests officiels acceptent la polygamie. C'est les tests officiels qui dictent la polygamie. Mais mes frères, ils ne sont pas polygames aujourd'hui.
D'accord.
Ils ont chacun une femme. Oui. Mais il existe en ville des gens qui sont polygames. Et même au village, on en trouve encore.
D'accord.
Mais le problème de la polygamie, c'est compliqué. Parce qu'avant, elle n'était que traditionnelle. Elle n'était pas dans les tests de loi officiels.
Oui.
Elle est devenue, elle est rentrée dans les tests de loi officiels que plus tard. Et il se raconte qu'à un moment donné, le Congo était un pays, entre guillemets, communiste. Il y a eu des femmes, il y a eu un véritable mouvement d'émancipation de la femme. Les femmes se sont lancées dans des mouvements, des organisations de masse, elles militaient dans le parti unique. Et c'est des activités qui leur prenaient énormément de temps. Comme elles se sont, entre guillemets, presque senties libérées, parfois elles rentraient tard. Il y a eu des divorces. C'est comme ça que les sociologues ont analysé la situation.
Oui.
Il y a eu des divorces. Et quand elles se sont retrouvées seules, et alors que souvent elles étaient dans les réunions politiques avec des gens qui étaient en couple, on dit qu'elles ont influencé les décideurs pour qu'on établisse la polygamie, pour qu'elles puissent avoir la possibilité de se marier avec les gens avec qui elles étaient souvent.
D'accord.
Mais je ne veux pas dire par là que toutes les femmes étaient de cette initiative-là.
Oui, oui,
Mais il y a des femmes qui ont forcé la main pour que la loi introduise la polygamie dans les tests.
C'est fou, ça. C'est fou. Ma question depuis toujours, si je peux dire, c'était quelle est la différence entre la polygamie comme chez vous, comme dans certains pays d'Afrique ou peut-être dans d'autres, je ne m'y suis pas penchée plus.
Non,
que
dans
ça.
Les autres aussi, comme au Sénégal, au Mali, il y a de la polygamie, au Cameroun, il y a de la polygamie,
Et alors je me suis dit, comment on peut accepter la polygamie, ou la critiquer, n'importe, la polygamie qui est culturelle, qui est... depuis toujours, et comment on voit l'homme ou la femme qui trompe son mari ou son épouse. Enfin, j'aurais bien aimé avoir depuis longtemps cette réponse, et la réponse, je l'ai trouvée dans votre livre, en fait. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier, finalement.
Ceux qui pratiquent la polygamie pensent en termes de honnêteté.
Oui.
Et ils disent que ceux qui la pratiquent de façon cachée sont hypocrites. Parce que d'une façon ou d'une autre...
C'est de la polygamie.
C'est de la polygamie. Il y a polygamie cachée.
Oui.
Mais on n'utilisera pas ce terme-là. On préfère les envoyer aux gens dont on peut penser qu'ils ne sont pas assez cultivés ou ils sont pas dans la bonne civilisation. Eux, ils pratiquent la polygamie. Si, parce que si, même dans un pays comme la France, elle peut se faire en terre au lieu. On a connu l'histoire du président François Mitterrand. Qui vivait presque entre deux.
Et combien d'autres?
Et on a connu l'histoire de François Hollande. Mais si, ça, on ne dira pas, c'est la polygamie, on préfère les appeler les maîtresses.
Oui.
Mais ce qui s'est passé chez nous, c'est que les maîtresses qui n'ont pas voulu accepter cet état de fait ou l'étiquette de maîtresse, mais qui ont préféré l'étiquette d'épouse, ont influencé la loi pour que ces relations-là, qui étaient les relations cachées, elles deviennent des relations visibles et reconnues comme telles.
Oui.
Parce que dans, dans tous les deux cas, il s'agit de, d'un homme qui a deux ou plusieurs femmes.
Oui, oui. Là aussi, Christina et Evan abordent donc, pendant leur période du Congo, et même après quand ils ont été rentrés, le sujet des religions. C'est un sujet vaste, on va essayer de faire un peu court parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. Est-ce que ça a été difficile pour Evan d'en parler avec ses amis, justement, de, d'essayer de cadrer quelque chose?
J'ai essayé de cadrer encore, mais il y a un ami qui m'a dit, on ne peut pas essayer d'arracher la foi de quelqu'un. Je ne vous cache pas que quand j'étais dans le parking, avant d'arriver, j'ai envoyé sur les réseaux sociaux un message que j'ai reçu. Je l'ai envoyé à un de mes cousins, à un de mes frères, où on dit, il y a des pays où il n'y a pas beaucoup d'églises. La personne qui a fait le test cite la Suède, la Norvège et la Suisse. Il dit dans ces pays-là, il n'y a pas beaucoup d'églises, même s'il y a des religions. Mais c'est des pays qui se développent. Il comparait la situation à la situation qui se passe en Afrique. Et il dit, un pays comme le Cameroun a des milliers d'églises et on en trouve près de 4000, il a dit, à Yaoundé, la capitale. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'au Congo, il y a autant de religions, d'églises? Au Cameroun, il y a autant d'églises. Au Nigeria, il y a autant d'églises. Et que ces pays-là soient toujours en train de chercher la voie du développement. Pourquoi Dieu ne leur montre pas? Je leur ai envoyé ça pour essayer d'inciter encore à un débat. Mais je sais qu'ils me répondront et quand on s'appellera, on en rediscutera. Mais okay. Je sais qu'ils sont dans une situation telle que je ne pourrais pas leur faire changer d'avis, mais au moins leur donner des éléments sur lesquels un jour, s'ils ont à prendre une décision, ben, qu'ils s'y refaire.
Oui. La question de l'existence de l'homme aussi, vous l'avez abordée et j'ai aimé ce passage, c'est très intéressant. Quand Evan dit que les religions sont l'opium du peuple, sans trop en dire, puisqu'il faudrait quand même inciter les gens à lire ce livre parce qu'on y trouve beaucoup de choses, et où est-ce qu'on peut échanger un petit peu là-dessus, l'opium du peuple?
Oui, l'opium du peuple, c'est
les pas, religions sont l'opium du peuple.
C'est pas un terme qui est de moi. Je l'emprunte à Karl Marx et je l'emprunte encore à Lénine qui disserte là-dessus.
Oui.
Opium, on sait ce que l'opium fait dans le cerveau de quelqu'un. Une fois qu'on a pris l'opium, on est perdu, on déraisonne, on perd presque la raison. Ce qui se passe, c'est que on se retrouve opium du peuple. Je reviens encore sur ce que je vous disais. J'ai lu. Et dans les réseaux sociaux, c'est une histoire qui se passe, je crois, c'est au Congo. Il y a un pasteur qui fait la prière et pour bénir les gens, il allume une bougie, il dépose sur la tête des individus, la bougie brûle, la cire glisse sur leur visage, ils ne s'en défont pas, ils pleurent parce que ça brûle, c'est brûlant. Mais ils sont incapables de comprendre que c'est une bêtise, c'est de la bêtise humaine. Dieu ne peut pas bénir en faisant souffrir. Mais comme ils sont tellement dans l'esprit de la religion, un esprit qui leur enlève la capacité de critique, parce que pour une fois qu'on a la foi, on ne se pose pas les questions, on ne critique pas. Donc il accepte de souffrir, que la cire lui brûle le visage, en espérant obtenir bénédiction de Dieu pour trouver une solution à ses problèmes. C'est pour ça que c'est en partie des exemples comme ça que je me dis vraiment la religion c'est devenu l'opium du peuple. Et je peux encore aller plus loin. On trouve, là je suis toujours sur l'Afrique parce que c'est, je vous dis que j'y habite pas, mais j'ai toujours ma tête par là-bas. On est arrivé parfois à trouver que les personnes prennent tout leur argent, versent des dîmes à l'église. Et à la maison, ils sont incapables d'acheter les ordonnances quand les enfants sont malades, ou de s'acheter à manger, ou de même parfois de payer leur propre maison. Et à côté, les pasteurs à qui ils versent cette dîme-là roulent carrosse, construisent des maisons qu'ils mettent en location. C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait, vous avez raison. La religion entre les gens, Diouf et Patricia, qui sont opposés en tout finalement, est-ce que c'est difficile ça aussi ou pas? Est-ce que c'est difficile une relation comme ça avec un couple qui sont l'opposé l'un de l'autre?
De ceux que j'ai vu les pratiquer, ils appellent Patricia et Diouf.
Oui.
C'est des amis personnels.
Oui, je l'ai compris aussi.
C'est des amis personnels. Diouf, il est sénégalais dans la vraie vie. Il est musulman. Et Patricia est catholique. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que je crois qu'ils font preuve d'une intelligence assez extrême. Et puis peut-être aussi ça marche bien parce que tous les deux n'ont pas versé dans l'intégrisme. Patricia dit qu'elle est catholique progressiste. Une fois, il m'a expliqué que si elle était en Amérique latine, elle ferait partie d'un courant qu'on appelle la théologie de la libération. C'est-à-dire, c'est des gens qui marchent avec une Bible dans la main droite et le capital de Karl Marx dans la main gauche. Ils essaient de faire une synthèse entre les deux.
Oui.
Donc, elle pense qu'elle est de ce courant. Comme elle est de ce courant, donc elle ne verse pas dans le combat entre le catholicisme et l'islam.
Oui.
Elle essaie de tirer des deux la meilleure sauce pour pouvoir faire sa salsa.
Oui, en effet. Mais ici, dans le temps, c'était pareil. Les femmes travaillaient beaucoup. Elles assuraient la maisonnée, la basse-cour. Et puis, il fallait aussi qu'elles aillent aider dans les champs, puisque c'était leur rôle de maîtresse de maison.
Ouais.
Christina et Evan soulèvent aussi le rôle de l'homme et de la femme. Alors qu'Evan assume sa totale participation dans le couple, ce n'est pas pareil au Congo. Est-ce que ce sont les gènes qui commandent ou est-ce que c'est justement ces espèces de religions qu'on pourrait dire?
Les gènes ne commandent jamais une culture. Une culture ne peut pas être née sinon ce n'est pas une culture. Je pose le problème de la répartition des tâches entre l'homme et la femme. Dans le livre, je dis... Il y a une part de responsabilité qui est issue de la tradition,
oui.
Parce que l'homme a voulu toujours s'imposer. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y a une responsabilité qui est aussi celle de la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que chez nous, quand un mari rentre dans la cuisine, parfois la femme le voit très mal. C'est comme si elle voulait empiéter sur sa terre réservée.
Oui.
J'ai un cousin qui est né au Congo, mais il est arrivé ici très jeune, il habitait à Nantes. C'est le fils de mon oncle qui m'a élevé et qui a vécu ici pendant longtemps. Il est reparti habiter au Congo et s'est mis en couple avec une femme congolaise. Quand il était ici, il aidait beaucoup sa mère, parce que sa mère travaillait beaucoup. Quand il était à la maison, il faisait à manger, il faisait le ménage. Un jour, il part au Congo, il vit là-bas quelques années, il revient, il ne touche plus à une assiette, il ne fait plus rien. Et sa mère m'appelle, m'a dit, Ignace, voyez, il se passe un problème. Il y a ton frère, il m'appelle mon frère, parce que c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma mère et ses frères, ils ont un compte commun pour les enfants. Donc eux, ce n'est pas mes cousins, c'est mes frères. Là, il me dit, ici, il ne fait plus rien. Alors que moi, je rentre toujours, il est venu passer les vacances, il dort, il se réveille. Et je l'appelle. Il m'a dit, oh, mes grands frères. Et ça, ce n'est pas mon histoire, la cuisine. Moi, quand je suis chez moi, ma femme, dès que je rentre quand je suis rentré au Congo, dès que je commençais à faire la vaisselle, ma femme, elle m'arrachait les assiettes des mains. Elle me disait, mais pourquoi il y a un problème entre nous? Pourquoi c'est toi maintenant qui fais la vaisselle? Et quand tu vis dans ce monde-là pendant longtemps, mais tu prends les habitudes de là-bas. Et pour l'instant, je vis avec les habitudes de là-bas. Je ne peux pas changer en un mois, il m'avait dit.
Oui.
Donc, cette situation-là, c'est la femme qui l'a créée. Pour rendre l'homme parfois dépendant. Moi, je considère ça comme une guerre de pouvoir.
Oui.
Si. Non, mais c'est
vrai, quelque part, c'est ça.
Non, ils veulent la rendre indépendante d'elle. Et même ici, je crois que j'en parle dans le livre, il y a un ami à moi qui est avocat. Sa femme aussi est universitaire. Ils habitaient là tous les deux, à Toulouse. Un jour, sa femme est rentrée au pays parce que son père était malade. C'était une visite familiale. Et je suis allé lui rendre visite. Il avait du mal alors qu'ils avaient la machine à laver. Et depuis plusieurs années, il ne savait pas faire tourner la machine à laver. Il m'a appelé, il m'a dit, tiens, viens m'aider. Je dis, pour faire quoi? Elle dit, mais j'arrive pas à faire tourner la machine. Je dis, mais tu sais pas faire tourner la machine? Non, je m'en suis jamais occupé, c'est ma femme qui s'en occupait. Et même pour manger, et sa fille l'amenait tout le temps au McDo ou manger dehors. Parce que faire la cuisine, ça n'a jamais été son problème. Parce que sa femme s'était arrangée que ça soit comme ça.
Oui.
Elle est intellectuelle, elle ne lui a pas imposé, puisque l'autre a vécu longtemps, étudiant tout seul. Donc, quand il était étudiant, il devait s'arranger à se trouver à manger ou à préparer à manger.
Oui.
Mais là, avec le temps que ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, tout ce côté-là, la vie d'autonomie qu'il avait en tant qu'étudiant, mais il avait perdu parce que la femme avait pris la
le pouvoir
au D'accord. niveau de la cuisine.
Mm-hmm. Bon, espérons que ça changera petit à petit.
Mais j'espère que oui, mais ce n'est pas gagné.
J'ai remarqué une très belle phrase, et il y en a plusieurs, mais celle-là, je l'ai remarquée. À l'heure où la nuit voulait solder ses comptes avec le jour pour reprendre ses droits. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça que je n'ai pas toutes notées. D'où vous viennent ces belles phrases et d'où viennent c'est presque de la poésie?
Mais j'essaie souvent d'insérer la poésie dans le roman pour casser la monotonie de la romance.
Oui, c'est bien fait, c'est bien réussi. Christina et Evan comparent la vie, les coutumes du pays qu'ils connaissent, latino, africain, espagnol. Et je trouve cette façon d'écrire très pédagogique. Qu'est-ce qu'il en est?
Pourquoi je compare? Parce que là, je pense que vous faites allusion à la culture. Là, ça se passe au niveau de Cuba.
Oui.
Ça se passe au niveau de Cuba. J'ai comparé parce que ce livre, je voulais comparer ce qui se fait. Qu'est-ce qui peut rester de la culture de quelqu'un quand elle quitte son berceau? Cuba, c'est essentiellement un peuple, il y a énormément de métissage. Et il y a beaucoup de gens qui habitent à Cuba, qui sont partis, qui sont des descendants des anciens esclaves, qui sont partis des côtes congolaises, d'accord? Et des côtes du golfe de Guinée.
Oui.
Congo, Gabon, Nigeria, Angola. Et on remarque que chez eux, ils ont gardé une partie des pratiques ancestrales de là-bas, surtout dans le cadre de la religion. Il y a beaucoup d'influence dans la religion qu'ils ont ramenée du Niger, du Nigeria avec, et du Togo. Et on trouve qu'ils font les mêmes pratiques. Il y a le Yoruba, qui est une religion qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, une religion ancestrale qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, mais ils ont gardé là-bas, avec les mêmes rites. Ils ont des dieux. Ils les nomment autrement, mais c'est les mêmes dieux qu'on invoque quand on se retrouve, quand on est en Afrique.
D'accord.
Donc, même parti en tant comme esclave il y a 400 ans, ils n'ont pas tout perdu de la culture.
Oui. Est-ce qu'Evan a vraiment écrit au président Obama, comme vous le dites à la page 121?
Oh oui.
Oui?
Oui, j'ai écrit au président Obama. Parce que quand je me rends à Cuba pour la première fois, je crois que c'était en 2006, je suis hébergé, il y a moi, il y a Christina, et il y a l'autre personnage du livre qui s'appelle Vané. Là, je lui ai fait porter son prénom, son vrai sobriquet, s'appelle Vané comme ça dans la vie. On a été hébergé chez un couple. Le mari fut très longtemps un homme politique de là-bas, très influent, et c'était même le procureur de la République au tribunal militaire quand Fidel Castro a gagné le pouvoir, a fait sa révolution. Lui, il était le bras droit du Che Guevara. Et sa femme était la première secrétaire particulière de Fidel Castro. On vit chez eux. On se berce vraiment de la culture cubaine. Au sortir de là, on parle politique avec son mari. On discutait politique, mais parce qu'entre-temps, son mari était tombé en disgrâce. Il était passé du côté de l'opposition. On discutait beaucoup. Et j'ai discuté aussi avec sa femme, et qui me disait que Obama, c'est le messie qu'ils attendaient. Parce que les conditions de vie, moi j'ai vécu, c'était pas à l'hôtel, chez le particulier, on sait comment ils vivent, la vie est vraiment dure.
Oui.
Bon, même si au point de vue santé, au point de vue éducation, au point de vue culture, ils excellent, mais la vie au quotidien est dure. Même pour trouver le savon, ça peut être vraiment dur. Ils pensent que c'est dû à l'embargo. Il y a une grande part de vrai. L'embargo fait vraiment son effet sur les difficultés de la vie quotidienne. Là, il me dit, Obama, c'est le messie que nous, on attendait. Il va nous enlever l'embargo. Une fois qu'il nous enlèvera l'embargo, nous, on réussira ce dont on avait voulu faire, qu'on a fait la révolution. Il me parlait. Et quand il me parlait, je savais que les médicaments parfois manquaient. Elle souffrait de l'asthme. Ils avaient beaucoup de maladies. Et parfois, les médicaments manquaient. Il me dit, ils attendent Obama, que Obama les sauve. Moi, j'étais ému. Et elle avait été vraiment sincère, comme si c'était le Messie. Quand j'arrive à Toulouse, je dis, tiens, Ignace, il faut que tu écrives à Obama. Et c'est là où je prends ma plume, j'écris. Mais en anglais, je suis presque une bille. Si, oui. Je comprends un peu, mais je suis presque une bille. J'avais une cousine qui a étudié aux États-Unis, qui est avocate d'affaires. j'écris la longue lettre que je reproduis dans le livre.
Oui, en effet.
Et je l'envoie à ma cousine qui, à l'époque, avec, qui s'était installée à Hong Kong. Je lui dis, traduis-moi cette lettre-là. Et elle me dit, ah ouais. Je dis oui. Elle me dit, tu vas l'envoyer? Je dis, oui, je l'ai envoyé. Et je l'ai envoyé en lettre recommandée à la Maison Blanche. Et j'ai envoyé une autre lettre via l'ambassade des États-Unis en France. Mais je suis incapable de savoir si Obama a reçu les lettres ou pas. Mais c'est parti. Et ce qui se passe, c'est que quand meurt Mandela, Obama va directement dans la tribune et rencontre Raoul Castro, qui est le petit frère de Fidel Castro, qui a pris le pouvoir après son frère. Il se lève au moment des obstacles de Mandela. Les États-Unis et Cuba sont en foi. Il va et se présente devant lui et lui serre la main. C'était une histoire qui a fait couler d'encre. Mm-hmm. Et là, ma cousine, depuis Hong Kong, m'appelle. Elle m'a dit, mais tu as vu ce qui s'est passé? Je lui ai dit, oui. Et me dit, tu penses qu'il avait reçu ta lettre? Je lui ai dit, je ne sais pas et on ne le saura jamais. Et il dit, peut-être que ta lettre l'a influencé. Je lui ai dit, mais tu vas trop loin, besogne. Et il me dit, peut-être que tu le sauras quand Obama écrira ses mémoires à la fin de ses vieux jours. Je lui ai dit, peut-être que je n'y serai plus.
On va faire une petite pause musicale. On va écouter Africa. Donc ça, c'est la musique que vous avez choisie pour justement nous faire voyager jusqu'au Congo ou pas?
Là, c'est pour vous faire voyager jusqu'au Sénégal parce qu'une partie de ce livre, elle, s'est déroulée au Sénégal.
C'est vrai. On l'écoute.
Africa. gacen khasi dagal yo alla sugen edi musibaji yo alla adu jam toru anda yo alla adu jam to burundi yo alla adu jam to kazamas laul mi jona
C'était Africa de Ismaël Lo. Et on est toujours avec le même auteur, Ignace Mvani, pour son livre Le caprice des miroirs. C'est donc paru en 2017 aux éditions Spinel. Ignace, ce livre, vous y avez donc comparé ces problèmes dont on vient de parler, entre Cuba, le Congo, les personnages, tout ça, on en a bien parlé. À la page 155, vous dites « Les assauts répétés de la pensée tribaliste qui, dans notre pays et de nos jours, assèchent la réflexion, aliènent les esprits et assiègent les consciences. » Evan ne mâche pas ses mots quand il dit tout ça. Est-ce que c'est, de sa part, plus un message de paix ?
C'est un message de réflexion surtout.
Oui.
Parce que souvent, tout ce qui anisme là, quand ça s'incorpore dans la pensée de l'individu, ça peut faire du bien, comme ça peut faire extrêmement du tort à un pays ou à un peuple. Quand je parle du tribalisme, c'est que on est dans une situation où, pas qu'au Congo, en Afrique souvent, les gens n'adhèrent pas à une pensée. S'ils adhèrent à une pensée, mais souvent si elle est conduite ou véhiculée par quelqu'un qui a les mêmes origines qu'eux.
Mm-hmm.
C'est le tribalisme. Ici, on va dire, il est macroniste. On va dire, il est chiracien. Pas parce que la personne a la même origine régionale que Jacques Chirac. Non. Mais parce qu'il a la même pensée. Il conçoit la société, l'évolution de la société, son développement économique de la même façon. Il adhère à une thèse. Ça peut être un socialiste, ça peut être un libéral. Mais chez nous, souvent, même qu'on dit la personne qui est un socialiste, les gens qui viendront avec lui ne partagent pas forcément sa pensée, mais ils reconnaissent à travers lui parce qu'ils pensent qu'il va défendre leur intérêt parce qu'il est de la même origine qu'eux. Mm-hmm. C'est ça le problème qui mine les actions. Du coup, oui. On se met du même côté que quelqu'un dont on partage pas la pensée, alors que c'est à partir de sa pensée ou de son programme qu'on va construire un État.
Oui, mm-hmm. Je comprends. Est-ce que le tribalisme de ces pays, dont Evan parle, sont comme le cancer à l'organisme ou pas ?
C'est exactement la même chose. Le cancer commence, il se développe et il s'installe durablement et peut aller jusqu'à tuer. La seule différence, c'est que le tribalisme ne tue pas presque systématiquement les pays, mais il tue leur économie, il tue leur développement social et il tue la réflexion des individus qui parfois sont obligés de se taire pour ne pas contredire la personne qui est de la même origine qu'eux ou derrière laquelle ils se sentent presque obligés ou instinctivement de s'aligner. Quand quelqu'un qui arrive au pouvoir est de la tribu de certaines personnes, je veux dire, il y a des exceptions, heureusement, des personnes qui ne sont pas forcément dans cette façon de voir. Mais il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là.
Oui.
Parce qu'ils ont une espèce de satisfaction psychologique. Quelqu'un de ma région est au pouvoir, quelqu'un de ma tribu est au pouvoir, tant mieux, c'est gagné. J'ai lu encore quelque chose. Il y a 2 jours, il y a une campagne présidentielle actuellement en Guinée, Conakry, une ancienne colonie française.
Oui.
Il y a le président au pouvoir qui fait un meeting et qui dit qu'il ne comprendrait pas que quelqu'un de sa tribu puisse voter pour quelqu'un d'autre.
Ah oui, d'accord.
Qui, lui, il était peul.
Oui.
Là, il y a un problème. Il est quand même président de la République et c'est lui qui doit. Il est garant de l'unité nationale.
Oui, tout à fait.
Alors, parce que lui, il est malinqué. Il voudrait que tous les malinqués, c'est sa tribu, tous les malinqués votent pour lui.
Oui.
Et ne votent pas pour son principal concurrent qui lui est Peul.
Oui.
Là, c'est le président qui est le garant de l'unité nationale qui parle comme ça. Imaginez-vous le reste.
Et oui, en effet. En effet. Vous dites aussi à un moment, l'homme est un animal pour l'homme. Donc ça, c'est à propos du racisme. Et là aussi, vous avez bien fait d'en parler. Pourquoi est-ce que l'homme considère toujours l'autre homme comme un sous-homme? C'est difficile, peut-être, ma question.
Mais parce que les gens, ils ont besoin d'avoir du pouvoir. Tout tourne autour du pouvoir. Si oui. on ne soumet pas, on n'arrive pas à se mettre une tribu ou une race, entre guillemets, même si le thème de race, je l'utilise pour la littérature, mais oui. biologiquement, je suis biochimiste de formation, je ne crois pas à la notion de la race en tant que telle. Les gens, ils ont envie d'avoir du pouvoir. Pour avoir du pouvoir, il faut être au-dessus. Pour être au-dessus, il faut soumettre. Soit on soumet la race, mais quand on n'est pas dans un milieu où il y a une différence raciale, on soumet les autres personnes parce qu'on va penser qu'intellectuellement, ils sont inférieurs. Quand intellectuellement, ils ne sont pas inférieurs, l'autre voudra se distinguer en disant ben lui, il est malvoyant, oui, il est sourd, même quand il est riche. Mais il voudra dire ben lui, il n'est pas comme moi, moi j'ai mes deux jambes, lui, il a une jambe coupée, oui, il est bossu. Il voudra toujours essayer de soumettre pour avoir le pouvoir. Soumission par la force ou soumission par le discours.
D'accord. Il y a peu d'écoles publiques. Est-ce que s'il n'y a plus d'écoles publiques, est-ce que ça veut dire que le crédit de liberté est court aussi ou pas?
S'il n'y a plus d'école publique?
Oui.
Parce que l'école publique, par définition, enfin telle que moi je la conçois, est faite pour être laïque.
Oui.
Or, quand c'est laïque, ça transcende les religions. Mm-hmm. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas que... Enfin, l'école laïque doit jouer son rôle d'école, parce que c'est l'école de tout le monde qui met tout le monde, qui amène tout le monde à s'entendre. C'est là où on parlera oui. de la nation sans faire allusion à une pensée religieuse. Mm-hmm. Parce que comme je vous dis, et je le pense encore, la religion, pour moi, restera toujours l'opium du peuple. On voit encore les dégâts que ça cause aujourd'hui.
Oui. Voilà. Au chapitre 7, Evan restitue l'histoire à l'histoire, qui montre que finalement, que tous les pays ont soif de pouvoir, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est aussi ne pas se tirer une balle dans le pied?
Mais oui, parce que les gens sont faits, que les gens veulent ou pas, surtout pour le monde de maintenant qui est un monde globalisé, où on dépend les uns des autres. Si on veut toujours prendre le pouvoir et assécher les autres, on finira par s'assécher. Si on développe, je prends un exemple. Imaginez, il y a un débat que j'ai souvent avec mes amis sur le fait que la France profite toujours et depuis longtemps des ressources naturelles de l'Afrique. Si un jour l'Afrique n'a plus de ressources, elle ne lui sera plus utile parce qu'économiquement, elle ne vaudra plus rien. Alors que si, entre-temps, elle a eu l'idée de penser que en faisant une belle coopération, juste entre guillemets, elle poussera ou aidera les pays africains à se développer. Le jour où il n'y aura plus de ressources naturelles, l'Afrique peut servir de marché en achetant les produits fabriqués par l'Europe parce qu'elle aura eu la capacité d'acheter. La Suisse peut acheter à la France, elle n'a pas beaucoup de matières premières, mais oui. elle achète parce qu'elle a une bonne économie qui est florissante, elle a des banques, elle a des industries. Alors que si on fait juste des territoires africains, des territoires qui fournissent que la matière première,
oui.
on exploite cette matière première d'une façon où on empêche son développement, le moment venu, quand il n'y aura plus cette matière première, parce que toutes ces matières premières-là, ils ne sont pas inépuisables. D'accord ? Donc si on les exploite, le moment venu, quand on aura besoin des marchés, on va se retourner autour, mais il n'y aura plus là où vendre. Parce qu'actuellement, on peut encore vendre à l'Afrique parce qu'elle a un peu des matières premières qui lui apportent un peu de dividendes.
D'accord. Ce livre, c'est un très beau livre, enfin en tout cas à mon humble avis, parce qu'il parle, oui, du racisme, il parle de la relation humaine, il parle des hommes parmi les hommes. Vous nous avez fait une très belle émission, me semble-t-il, parce que justement, il faut ramener toutes ces histoires à l'humain et à l'homme, à la proximité. Je crois que c'est une grande leçon que nous venons d'écouter de votre part. C'était votre pays, votre village que vous avez raconté dans ce livre, Le Caprice des Miroirs. C'est sorti en 2017 et c'est aux éditions Spinel. Christina est rentrée du Congo avec Evan, complètement bouleversée, changée. Elle ne supporte plus l'intolérance et elle se sent comment?
Elle se sent un peu révoltée ou oui. un peu rebelle.
Oui.
Elle s'affiche et décide de dire des choses.
Oui.
Et c'est ce qu'elle fait. Elle n'accepte plus les petites phrases tordues. Mais ça va avec un peu de cachet qui peut aller avec.
Mm-hmm.
Et comme quand je me présente à une élection municipale, je suis du retour du Congo, il y a une personne d'une liste concurrente qui, pour faire campagne, fait campagne contre moi en me présentant comme quelqu'un de pas là, pas comme un vrai Français.
D'accord.
Et c'est arrivé aux oreilles de Christina, qui effectivement, quand elle a
elle
vu...
Elle est montée au créneau.
Elle est montée au créneau. Quand elle a vu la personne, elle lui a dit, j'ai entendu que tu as dit ceci, tu as dit cela contre mon mari. Mais ça, c'est des choses que je ne peux pas accepter d'entendre surtout de toi. Alors que j'étais toujours presque pris pour une amie, mais pour une petite élection qui n'a qu'un petit caractère local et qui ne nous apportera pas forcément grand-chose parce que les choses ne se décident pas ici, je ne comprends pas que tu puisses t'adresser comme ça à quelqu'un qui te considère mm-hmm. comme une amie. Donc du coup, les relations sont arrêtées par là.
Oui. Merci beaucoup Ignace de nous avoir fait connaître ce pays. Et je voudrais dire donc encore une fois aux auditeurs toute la philosophie qui s'y trouve, parce que c'est à l'échelle humaine, c'est énorme, en tout cas à mes yeux. J'ai souvent arrêté de lire pour réfléchir, pour trouver des réponses, des fois que je cherchais depuis toujours, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce voyage. Continuez à écrire de très belles phrases et de très belles pages. Vous avez choisi une musique de fin et vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi cette musique de fin.
Jérusalem, je l'ai choisi comme musique de fin parce que c'est une musique actuelle. J'ai été même surpris de constater que vous n'en avez jamais entendu parler.
Non, franchement.
Elle est sur les réseaux sociaux, il y a mille et une chorégraphie autour de cette musique. Et surtout le message, c'est nous sommes en période de coronavirus, la personne qui chante, vous voyez la contradiction de l'être humain. Je ne crois pas en Dieu, mais cette musique-là, la fille qui a composé, évoque le Dieu qui devrait venir nous délivrer du coronavirus. Et comme le coronavirus a actuellement la conversation de tout le temps et l'antise de toutes les personnes, c'est pour ça que je l'ai choisi en morceau de fin.
Merci beaucoup, à bientôt Ignace.
Mais je vous remercie et j'espère que j'aurai l'occasion de repasser dans vos murs.
Jérusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami. Shilana Jerusalem Ikayalami Ilondoloze Uhambe nami Zungangishilana Dauyami Alikolana Buso wami Aukolana Ilondoloze Oyami, ai kolana, buso wami, au kolana. Ilondoloze, zuhambenami. Ilondoloze, ilondoloze. Aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dauyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami.